Dans 2 Samuel 1, 25, nous allons faire quelques lectures. 2 Samuel 1, 25, il est écrit « Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat ?» Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat ? Au même chapitre, mais au verset 27, il est écrit « Comment des héros sont-ils tombés ? Comment leurs armes se sont-elles perdues ?» Et au verset 19, il est question aussi d'une interrogation « Comment des héros sont-ils tombés ?» David se pose la question dans ces trois versets, et vous ferez le constat avec moi que dans ce chapitre, il y a au moins ces trois versets. C'est une question qui vient le tarauder. Comment des héros sont-ils tombés ? Et c'est vrai que c'est une question qui est pertinente, puisque nous pouvons nous la poser nous-mêmes. Comment sont tombés des gens que nous avons connus ? Des gens qui ont été des pères et des mères spirituels au milieu de nous, et qui un jour, pour une raison ou pour une autre, qui ne nous regardent pas d'ailleurs, eh bien ont flanché. Et ce qui est important de réaliser ici, de voir, c'est, et qui nous pousse vraiment à l'étonnement, c'est le fait qu'il soit écrit au milieu du combat. Et il est précisé aussi les armes perdues. Et ce qui doit nous interpeller encore, eh bien, c'est que forcément, les armes qui ont été perdues au milieu du combat, c'est qu'ils les avaient avant le combat. Alors pour ceux qui ont fait le service militaire, peut-être moins, mais pour ceux qui auraient été engagés dans l'armée, il y a une chose qui doit être ancrée dans leur esprit quand ils étaient à cette époque sous les armes, c'est que leurs armes, ils ne devaient jamais s'en séparer, sous peine de sanction. Moi, j'ai connu deux garçons, ils avaient été en alerte dans un pays. Ils étaient obligés de dormir avec leurs armes dans le duvet. Alors, ça peut faire sourire, on peut en rire, mais c'est dans le contexte de notre texte, ça doit nous parler. Ces hommes qui ont été armés n'auraient jamais dû abandonner leurs armes en plein milieu du combat. Il est question ici, certainement, eh bien, de négligence, qui s'est invitée eh bien, au milieu des héros, des rangs des héros. Cette négligence qui a été mortelle pour eux, puisque des héros sont tombés. Que s'est-il passé ? Pourquoi ? Eh bien, ces hommes qui étaient là, prêts au combat, armés de leurs armes, en train de combattre, à un moment donné, ils ont tout laissé tomber. Que s'est-il passé ? Ésaïe 43, verset 22, nous dit « Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. » En réalité, le processus d'une chute d'un héros de l'Éternel est simple. Lassitude qui nous conduit à la négligence, de la négligence qui nous conduit à la perte, et la perte qui nous conduit à la chute. Comment y résister ? Comment y résister, d'autant plus que cela nous concerne tous ? Un jour, j'ai pu dire dans une église où j'étais, où nous étions, « Je me méfie de quelqu'un dans l'église ». Alors les gens ont commencé à me regarder, parce que dire ça en public, dire forcément il va dénoncer quelqu'un dans l'église. Et ce matin, je réitère ce que j'ai dit dans cette église. Je me méfie de quelqu'un dans cette église. Au premier culte, et la même personne se retrouvera au deuxième culte. Et ça, c'est sûr, à moins que cette personne soit morte, au moins que le Seigneur soit revenu avant. Je me méfie de moi-même. Méfions-nous de chacun d'entre nous. Parce que nous pensons être fort, nous pouvons avoir une certaine image de notre personne, nous pouvons avoir une certaine idée, et qui est le mieux placé pour savoir ce que l'on pense et d'avoir une certaine image de nous, c'est nous-mêmes. Or, dans 1 Corinthiens 10:12, il est écrit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » 1 Timothée 4:16 dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. » Au-delà de veiller sur son frère et sur sa sœur, avant de veiller sur son frère et sur sa sœur, il faut veiller sur soi-même. Je rappelle l'histoire d'Abel et de Caïn. Caïn était averti, vous savez qu'ils ont offert tous les deux une offrande, et l'offrande d'Abel a été acceptée de la part de Dieu, quant à l'offrande de Caïn, n'a pas été acceptée. Il y a toute une symbolique derrière, et ça mériterait une prédication. Mais Caïn était averti. En quelques mots, Dieu lui disait « Fais attention, le péché se couche à ta porte. Prendre soin de soi. » Mais Dieu lui a posé une question après lui avoir dit « Le péché se couche à ta porte. Où est ton frère ? Où est ton frère ?» Donc ça montre bien ici qu'avant de prendre soin des uns et des autres, il faut prendre soin de soi-même d'abord. Allez voir un psychiatre si un psychiatre est fou et que vous ayez besoin d'aller voir un psychiatre. Très honnêtement, je n'irai pas le voir. Parce que si lui-même n'est pas en état de pouvoir me parler, me donner des conseils, me donner le remède qu'il me faut pour me donner un équilibre ou ceci ou cela, vous pensez bien, je n'irai pas le voir. Imaginez que le psychiatre vous dit « Oh, ben, vous savez, à votre niveau, sautez par-dessus le pont. » C'est pas la peine d'aller voir un homme comme ça. Donc avant de prendre soin des uns et des autres, il faut d'abord prendre soin de soi pour pouvoir apporter aux uns et aux autres. Dans Matthieu 26, 41, il est écrit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Le principe pour réussir dans sa vie spirituelle, eh bien, nous avons l'exemple avec Anne. Dans 1 Samuel 2:3, il est écrit « Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Mon frère, ma sœur, pour pouvoir réussir sa vie spirituelle avec Dieu, il ne s'agit pas simplement d'entendre parler de Dieu, il ne s'agit pas simplement de venir à l'église, d'entendre une prédication, et même de dire Amen, de chanter, et même d'aimer les chants, d'aimer la mélodie. Il ne s'agit pas simplement d'entendre la prière des uns et des autres, mais il faut que je croie que lorsque je prie, Dieu entend ma prière. Parce que si vous parlez à un mur, vous connaissez tous cette expression, j'ai parlé à un mur, ça veut dire que vous n'attendez à rien de la personne. C'est comme si vous parliez au mur. Mais lorsqu'on s'adresse à Dieu, même si Dieu ne vous envoie pas un accusé de réception pour dire « j'ai bien reçu ta prière », croyons, soyons sûrs que Dieu entend. Cette semaine, j'ai encore fait cette expérience. J'étais en train de... voilà. Puis à un moment donné, j'ouvre un petit calendrier, là. Et ben, c'était juste pour moi. Mais je ne l'avais pas prévu, forcément, sinon ça n'aurait pas de... Et Dieu fait ainsi. Anne, alors qu'elle vivait auparavant le plus grand de ses combats, puisque celle-ci ne pouvait pas avoir d'enfant, elle va vivre quelque chose de douloureux, de difficile, d'humiliant, d'angoissant. Cette femme qui était stérile va être touchée par la grâce, et c'est la raison pour laquelle elle dira « Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout ». Et par lui sont pesées toutes les actions, parce que cette femme au préalable ne pouvait pas avoir d'enfant. Et cette femme, lorsqu'elle priait, elle murmurait, Dieu entendait, Dieu agissait. Et cette femme a su transmettre, et c'est un devoir pour chacun de nous, de faire de la transmission à ceux qui sont à côté de nous. Leur transmettre le fait de faire connaître Dieu autour de nous, et plus précisément, autour de notre famille en premier aussi. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, en Samarie, et jusqu'au-delà de la terre. Et Anne, qui alors qu'elle était en plein dans son combat, n'a pas fait tomber ses armes. On ne pouvait pas dire de Anne, eh bien, comment des héros sont tombés, comment des héros ont-ils eh bien, perdu leurs armes. Anne, qui était au fort du combat, a su mener ce combat, même si c'était douloureux, même si c'était difficile. Lorsqu'elle a eu Samuel, elle a pu lui donner le nom suivant. Dieu a exaucé, ou encore entendu. Je ne sais pas si, lorsque vous priez, quand tout va bien, ça ne pose pas de problème, hein, mais quand tout va mal, quand vous avez des moments qui sont difficiles à vivre, des turbulences dans votre existence, est-ce que nous prenons conscience que Dieu est celui qui entend ? Est-ce que nous prenons conscience que Dieu est celui qui veut exaucer ? Pourtant, celui vers qui nous nous adressons, c'est le « Je suis ». Et c'était le même « Je suis » pour Anne. Anne qui veut dire « grâce ». Pas simplement dans sa joie de vie, pas simplement dans sa façon d'être, d'être gracieuse, mais dans le sens de « grâce de l'Éternel ». Anne a vécu cette grâce. Prenons conscience aussi que son mari Elkana signifie « possession de Dieu ». Nous pensons bien, et nous pouvons faire tout de suite eh bien, cette analyse en disant que Samuel, lorsqu'il a vu son père « possession de Dieu, grâce de l'Éternel », on peut faire l'addition « Dieu est exaucé ou entendu ». Et je crois qu'il est important, frères et sœurs, que nous puissions considérer revoir ou réviser notre copie en nous rappelant que si nous sommes chrétiens, si un jour nous nous sommes engagés avec Christ dans les eaux du baptême, nous sommes en possession de Dieu, Dieu nous appartient, mais nous sommes sa possession avant tout. Jésus est le mien, vous pouvez le prendre aussi, mais il est à moi. Mais je suis à lui. Je suis à lui. Rappelez-vous ce que Saul de Tarse, lorsqu'il persécutait les chrétiens, à un moment donné, il s'est fait arrêter, c'est là qu'il s'est converti, et Jésus lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Saul ne persécutait pas Jésus, puisqu'il persécutait les chrétiens. Et quand on touche l'Église, c'est à Christ que l'on touche. Quand on touche à un chrétien, c'est à Christ que l'on touche. Les conséquences de cette confiance en Dieu, 1 Samuel 2, 21, il est écrit, « Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. » Dieu était pour Samuel eh bien, comme un père qui l'a conduit, qui l'a guidé. Rappelons-nous que Anne a confié Samuel à Élie, qu'elle l'a laissé comme en pensionnat. Et chaque année, Anne, elle revenait avec une nouvelle tenue, parce que Samuel, il grandissait hein, physiquement. Et Anne, eh bien, lui donnait une tenue nouvelle. Mais il était comme en pension, séparé de son père, séparé de sa mère. Et Anne l'avait prêté à l'Éternel. C'était le deal. Si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à l'Éternel. Et Samuel, qui était là, il nous a dit qu'il grandissait auprès de l'Éternel. Je crois que quelles que soient les circonstances de notre vie, même si celles-ci elles peuvent être difficiles, comme Samuel pouvait le vivre parce qu'il était séparé de son père et de sa mère, Dieu nous fait grandir. Les épreuves nous font grandir. Les temps difficiles nous font grandir. Même à notre insu, on ne s'en rend pas forcément toujours compte, mais ce n'est souvent qu'après qu'on s'en rend compte. Il y a des temps qui sont douloureux et pourtant Dieu se sert de ces moments-là pour nous faire grandir. Et ce qui est important aussi à remarquer, c'est au verset 26 où il est écrit « Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. » Le verbe « continuer » a toute son importance ici. Il ne s'est pas arrêté de temps en temps. Mais en permanence, petit à petit, il grandissait. Lorsque vous allez mettre une semence, en ce moment, cette année, c'était un peu les spécialistes des tomates. Il y a deux familles qui m'ont parlé de leur tomate, de leur pied de tomate. Ils ont donné. Alors, ils ont été certainement très contents, mais surtout dans l'hésitation, avec un point d'interrogation, en se disant, mais est-ce que ça va marcher? Moi, je plante, je sais que c'est Dieu qui fait lever, je vais arroser, mais après tout. Sauf que quand ils ont vu qu'il leur fallait mettre des tuteurs parce que les plants poussaient et que ça donnait, ils ont été heureux et fiers. Pas dans le mauvais sens, mais fiers, contents de dire, voilà, c'est mon produit. Sans s'en rendre compte. Continuez à grandir. Nous avons accepté Jésus dans notre cœur comme sauveur et maître. Et ce qui est important, c'est de comprendre, mes frères et sœurs, que Dieu veut nous transmettre le fait de continuer à grandir. Quoi que nous vivions, quels que soient les moments de bonheur ou de malheur, Dieu veut nous faire grandir. Surtout que, à l'époque, au livre des Juges, il est écrit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était chacun pour sa peau. Chacun donnait une interprétation de la parole. « Moi, je pense que Dieu voudrait que les choses se fassent ainsi », disait-il. L'autre pouvait dire « Moi, je pense qu'il faudrait faire comme ça ». L'autre se refusait d'être repris. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Sauf que Samuel était celui qui grandissait auprès de l'Éternel. Il nous est dit qu'il était agréable aux hommes. Souvent, on peut s'entendre dire, ou peut-être même nous l'avons dit nous-mêmes, Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde qu'au cœur. Eh bien, c'est complètement faux. Ou à moitié vrai ou à moitié faux, comme vous voulez. Dieu, en effet, regarde au cœur, mais Dieu regarde aussi à l'apparence. Dans 2 Corinthiens 5, 20, il est écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. » Imaginez l'ambassadeur au Rwanda, l'ambassadeur français au Rwanda. S'il sort pour aller dans son bureau en marcelle et en short et en tongs, que vont-ils penser les Rwandais? Ils vont dire, mais c'est ça la France? Ils sont comme ça les Français là-bas? Il y a une tenue. Savez-vous que Dieu parle des caleçons dans la Bible? Ça vous choque que je dise ça? Ne vous choquez pas s'il y en a qui seraient offusqués. Dieu parle des caleçons. Pour ceux qui servaient au sacrifice, lorsqu'ils montaient les degrés, ils devaient être couverts aussi. Il est écrit dans 1 Corinthiens 8, 9, « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » Comprenons ici que si je pars du principe que Dieu regarde qu'à mon cœur mais ne regarde pas l'apparence, ici, l'apôtre Paul nous dit « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. »« Mais ça va, je fais ce que je veux, tranquille, tant pis si les autres ne me comprennent pas. » Mais c'est grave. Parce que je peux froisser, je peux même arrêter des gens à venir même à l'église par mon comportement. « Oh ça va, hein, moi je suis comme ça, c'est mon caractère. Hein. Si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, au moins on sait ce que je pense. » Ah oui? Et alors, bah tant mieux, mais enfin d'être franc, mais être franc c'est une chose. Mais il y a l'art et la manière d'être franc. On peut dire les choses avec amour, gentillesse, sans blesser, sans casser, sans laminer les uns les autres. Combien de gens ne sont plus jamais venus dans les églises parce qu'ils ont entendu des gens qui parlaient mal? Vous savez, notre culture, notre région, même ici, sur la région marseillaise, où c'est bien connu quand même que les gens sont très très expressifs, eh bien, avant d'être de la région marseillaise, ça passe après la Bible. Quand je suis converti, il n'y a pas une conversion pour les Lillois, il y a une conversion pour les Marseillais, ni pour les gens de Biarritz, ni pour les gens de Thionville. Peu importe, si j'ai un fort caractère, mon caractère passe après la Bible. Et Dieu peut se servir de mon caractère pour son service, comme un homme comme l'apôtre Pierre. Mais nous devons, mes frères et sœurs, aussi grandir et être agréables auprès des hommes. De Corinthiens 10, 18 est écrit « Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Et nous sommes appelés à ce que Dieu soit celui qui nous recommande. De Corinthiens 8, 21, que nous dit la parole ? De Corinthiens 8, 21. Ben vous l'avez trouvé avant moi, non ? Pas encore. Voilà. « Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs ? Imaginez une monitrice d'école du dimanche qui parle mal aux enfants. Croyez-vous que les enfants vont venir le dimanche d'après ? Combien de fois les monitrices et les moniteurs sont obligés de ravaler leur salive ? Combien de fois les moniteurs et les monitrices sont obligés de, tempérer ? Vous avez tous des souvenirs d'enfance. Moi, je me souviens d'une monitrice que j'avais, alors je n'étais pas chrétien à l'époque. Elle était belle, elle était gentille. Par contre, je m'en souviens d'une autre, c'était quelque chose. Il y a plus de 40 ans de ça, et ça m'est resté gravé. Oh, j'ai pardonné, bien sûr. Mais pour dire que ce que l'on va transmettre a toute son importance. Et nous devons veiller là-dessus. Il nous est dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et ça, c'est vraiment particulier. Alors que Samuel travaillait auprès d'Élie, le sacrificateur, alors que Samuel était là dans le temple, Samuel ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. Et nous, est-ce que nous connaissons la voix de Dieu ? Ah ben là, je vous ai scotché. Frère, ça fait des années qu'on vient à l'église. Comment ça, on ne connaît pas la voix de Dieu ? Oui, non, mais je réitère ce que je viens de dire. Connaissons-nous la voix de Dieu ? Quand Dieu nous parle, en secret, dans notre cœur, est-ce que nous reconnaissons sa voix ? Samuel, il ne reconnaissait pas la voix de Dieu. Quand Dieu va appeler Samuel, 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 qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller voir Élie. De mémoire à trois reprises. Et lui, Élie, qui avait entendu, qui avait connu la voix de Dieu, et qui ne l'avait pas entretenu, s'est souvenu, à un moment donné, que c'était bizarre que Samuel se fasse appeler comme ça, alors que ce n'était pas lui qui l'appelait. Il dit, la prochaine fois, tu diras, ton serviteur, voici mon... parle, ton serviteur, écoute. Ne soyons pas étonnés de la question que je viens vous poser, puisque Job nous dit dans 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, » mais maintenant, mon œil t'a vu. Comment des héros sont-ils tombés ? Est-ce que tous ces héros connaissaient vraiment la voix de Dieu ? Moi, je crois que oui. Sinon, ils ne se seraient pas fait appeler héros. Mais qu'ont-ils fait de la voix de Dieu ? Pour arrêter le combat au milieu des moments les plus difficiles. Au moment où ils ont fait tomber les armes. Mes frères et sœurs, ça nous guette tous. Il y a eu l'histoire du corona. C'est de la faute à personne. On a subi le corona. On a été 3-4 mois isolés. C'était comme ça. Ça a servi à rien apparemment parce que c'est repris de plus belle. Il y a eu WhatsApp et les uns ont fait ça, les autres ont fait des zooms et pour entretenir. Mais à ce jour, depuis que l'Église a repris, est-ce qu'on ne s'est pas installé dans un certain confort ? Ah, je ne vais pas venir. Oh. Ah, je ne parle pas à vous puisque vous êtes là. Mais il y a des dangers. Il y a des dangers. Le verbe qui ressort le plus, c'est le verbe grandir. Dans chapitre 2, verset 21, verset 26, verset 19. Et comme un homme, comment un homme ordinaire, de la même nature que nous, eh bien, se fait remarquer par sa croissance quotidienne. Comment a-t-il fait Samuel, alors que, encore une fois, c'était un homme comme vous et moi? Qu'avait-il de particulier, Samuel? Bien sûr, c'est l'enfant du miracle. Maman, papa ne pouvaient pas avoir cet enfant. Bien sûr que cet enfant a été mis de côté avant même sa naissance, par la maman. Bien sûr que la maman est allée jusqu'au bout de son vœu à l'égard de Dieu. Bien sûr que ce petit, eh bien, était agréable entre les mains, aux côtés de Dieu, il grandissait, mais aussi aux côtés des hommes. Il se faisait remarquer, pas parce qu'il voulait se faire remarquer, mais parce que Dieu était avec lui, donc on ressentait, on voyait, on entendait que ce petit avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Mais pourquoi ce petit-là, il a continué à grandir? Est-ce que les autres étaient incapables de grandir? Non. Grandir, je parle de la foi. Quel était le secret de Samuel? Vous voulez le savoir? Il est tellement simple. Est-ce que vous voulez le savoir? Je sais pas. Bon. C'est écrit. Je ne l'invente pas. Chapitre 3, verset 19. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Voilà le secret de Samuel, qui a fait que Samuel a pu grandir auprès de Dieu et qui s'est fait remarquer auprès des hommes en disant « Mais lui, il a quelque chose. » Vous savez, mes amis, lorsque Samuel a été en exercice de prophète, lorsque les gens voyaient Samuel, ils se disaient, lui, s'il vient nous voir, c'est pas pour rien. Lorsque Samuel a été convié de la part de Dieu à aller dans la famille d'Isaïe pour choisir le successeur de Saül, tout le monde était au garde à vous. Hein. On avait fait venir tous les enfants, sauf un, bien sûr. Vous connaissez l'histoire. Mais tout le monde était là et savait que si Samuel venait, c'est qu'il y avait quelque chose d'important. Quand nous venons à l'église, frères et sœurs, est-ce que nous disons, tiens, je vais passer une heure là-bas, je viens au culte à 9h, comme ça après je suis tranquille, ou je viens à 11h, comme ça j'ai le temps de prendre tout mon temps avant pour me préparer? Ou alors est-ce que nous disons, je sais que Dieu va me parler, ou plutôt, je m'attends à ce que Dieu me parle? Parce que Dieu n'est pas obligé de nous parler tous les dimanches, on est bien conscient de ça. Mais Dieu, il faut que nous soyons disposés, disponibles, à dire, Seigneur, parle, si tu as à me dire quelque chose, ton serviteur, écoute. Je rappelle que le serviteur, à mes yeux, n'est pas simplement le prédicateur. Les sœurs, dès l'instant où vous avez donné votre cœur au Seigneur, vous êtes des servantes du Seigneur. Et les frères, vous êtes des serviteurs. On pourrait l'employer autrement, dire les sœurs sont des femmes de Dieu et les hommes sont des hommes de Dieu. Et est-ce que nous sommes prêts à dire Seigneur, parle. Je prends conscience de ma fragilité. On n'est pas obligé de parler, de dire à tout le monde notre fragilité. Est-ce que vous avez tous des points faibles? Moi j'en ai. Si j'en avais qu'un encore, ça irait. Tous les jours, haut sur le ring, j'irais lui mettre voilà. Mais comme on peut en avoir plusieurs, il faut en être conscient. Et comme nous savons que, enfin peut-être qu'il y en a qui n'ont pas de points faibles, j'espère que ça va, que vous allez vous réveiller, parce que je pense que vous en avez au moins. Mais de prendre conscience que si j'ai un ou plusieurs points faibles, qu'un jour ou l'autre je peux faire tomber les armes en plein milieu du combat. On n'a jamais vu quelqu'un sur un ring, il s'est préparé physiquement, se retrouver sur le ring devant Mike Tyson. Si on le met devant Mike Tyson, c'est qu'on s'est dit, il devrait faire un peu le poids quand même. Il vous regarde comme ça avec son œil bien foncé, là, en train de vous dire, ça y est, il va me tuer, il va me laminer. Imaginez que ce boxeur se mette à genoux en disant, ça y est, j'arrête, en plein milieu du match. Ce serait incroyable. Ça ne s'est jamais vu. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, eh bien, à être de ceux et de celles qui ne tombions pas eh bien, les armes pendant le combat. Je termine en disant que lorsqu'on parle du train-train quotidien, c'est souvent péjoratif. Dans ma région, on disait comme ça, lorsque j'habitais dans le Nord, en parlant des Parisiens, les pauvres, ils ont métro, dodo, boulot. Métro, boulot, dodo. Le quotidien, train-train quotidien. Et le train-train peut être usant. C'est fatigant le train-train, de toujours faire la même chose. C'est usant, c'est fatigant. Et puis ça devient démotivant. C'est pour ça qu'il y en a qui ont un emploi, par exemple, ils savent quand est-ce qu'ils commencent, mais ils ne savent jamais ce qu'ils vont rencontrer sur la route. C'est toujours plein de, enfin dans leur journée, c'est toujours plein d'événements particuliers. Eh bien, pourtant, dans la Bible, le train-train au quotidien, ça a du bon. 1 Samuel 7. Verset 15 à 16, il est écrit: Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mispa. Il jugeait Israël dans tous ces lieux, puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël, il avait bâti un autel à l'Éternel. Tous les ans, il allait au même endroit. Le train-train en quotidien. Il allait à Bethel. Bethel, maison de Dieu veut dire Bethel. Il avait besoin eh bien, de se ressourcer, de se renouveler. Gilgal. Gilgal signifie roue, rouler. Et nous avons ce passage dans Josué 5.9 où il est question eh bien, d'avoir roulé. Eh bien, on va le dire ensemble. Je m'évitera de dire une erreur. Josué 5.9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. De se rappeler que Dieu nous a pardonné. De se rappeler de se nourrir de cela. Vous êtes-vous pardonné? Est-ce que vous êtes pardonné? Pardonné à votre prochain, oui, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, non, c'est pas si simple que ça des fois. D'être prêt à pardonner aux uns aux autres, ok, bon. De demander pardon, oui, même parfois ça peut être difficile parce qu'on a notre petit orgueil, hein. Des fois c'est un petit combat. Hein. Mais de se pardonner à soi-même. Et ici, eh bien Samuel roulait, passait à Gilgal, et ça avait un souvenir, ça avait une résonance. Et puis il passait à Mispa, qui signifie « tour de veille ». Et combien il est important, frères et sœurs, que nous puissions veiller sur nous-mêmes. Veiller sur nous-mêmes avant de veiller sur les autres. Et il terminait à Rama, qui signifie hauteur. Et c'est là qu'il est mort aussi, à Rama, dans sa hauteur. Dans la hauteur qui nous parle, eh bien, de notre relation avec Dieu. Samuel, Dieu a exaucé ou entendu, je veux me rappeler d'une chose. C'est que si je ne veux pas tomber, si je ne veux pas laisser tomber mes armes pendant le combat, alors il est important que je laisse jamais tomber une seule parole de l'Éternel à terre. On va terminer par la prière, vous voulez bien ?